ces Turcs orgueilleux étaient morts stoïquement pour la plupart. Dans les rues de Kassim Pacha, dans Taksim surpeuplée, sur les hauteurs de Pera et sous les arcades de Sultan Selim, j'ai vu la boutique en plein air du barbier et son squelette. À côté de lui, le crâne du fidèle client à moitié rasé et le narguilé de 2 heures contenant des traces de tombaki et de hashish dans le fourneau. Ils ne sont plus que cendres et leurs os sont jaunes et secs. Mais dans les maisons du Fanar, dans la vieille Galata si bruyante, dans le quartier juif de Pripacha, le soulier noir et la coiffure du grec sont différents de ceux de l'hébreu dont la couleur est le bleu. Il y a ici un rituel des couleurs du soulier et du couvre-chef. La couleur jaune est celle des musulmans, les arméniens ont des bottes rouges et un kalpak noir. Les effendis ont un turban blanc, celui des grecs est noir. Le crâne des tartares reluit sous un turban blanc, celui des nizaïnjids sous un chapeau en forme de melon. Les imans et les derviches portent un feutre conique. Ici ou là, on voit un franc en loques européennes. J'ai vu aussi le turban en forme de tour du Bachibouzouk et plusieurs softas dans les dômes des murailles d'Istanbul. Et le mendiant et le marchand des rues avec son plateau couvert de pastèques, de sucreries, de raisins secs et de sorbets. Et le montreur d'ours et l'orgue de barbarie et le veilleur de nuit qui ne criera plus jamais au feu avec sa lanterne, ses pistolets, son poignard et son javelot de bois. J'ai été me promener dans la plaine au-delà des murs. La ville, vue de là, n'est plus qu'un ensemble de minarets dépassant les cyprès. Et il me sembla entendre le muezzin crier du haut d'une tour « Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah ». Du cimetière de Scutari, j'ai vu Istanbul entouré de murailles dans toute son étendue, jusqu'à Fanar et Eyyub au milieu des cyprès. Tout ce quartier est dans l'ombre maintenant, avec ses multitudes de ruelles, obscurcies par les balcons des demeures byzantines, sous lesquelles, quand on passait à dos de mulet, il fallait baisser la tête. Ces ruelles forment un labyrinthe pittoresque où même les vieux habitants d'Istanbul se perdaient. Dans les bocages de la côte du Bosphore jusqu'à Fondoukli et au-delà, pointaient quelques yalis, palais blancs comme la neige, ou quelques cabanes arméniennes. Il y avait aussi le sérail au bord de la mer, véritable ville dans la ville. Au sud, enfin, s'étendait la mer de Marmara, bleue et blanche, très vaste, s'agitant comme une mère qui vient de naître et qui est heureuse de voir le jour sous le soleil, toute fringante et s'étendant jusqu'aux îles qui ont l'air de soupirer au loin. En contemplant ce paysage, j'ai prononcé des paroles égarées, des paroles de folie, et ma langue articula inconsciemment ces mots « Cette ville n'est pas tout à fait morte ». Je passai 5 nuits à Istanbul, dans le palais d'un Sanjak Bey ou d'un émir. J'y vécus dans une sorte d'assoupissement constant. Je soulevai ma paupière endormie uniquement pour reconnaître mes visiteurs, Sindbad, puis Ali Baba, puis Harun al-Rachid, et je notai leur façon de dormir. J'étais dans la petite chambre où le bey recevait de nuit les visites silencieuses des Turcs, heures de romances parfumées, d'ivresse imaginaire, d'alanguissements chimériques qui vont en s'amenuisant jusqu'au lever du jour et se résorbent dans la paix profonde du sommeil. Là encore, on voyait les yataps sur lesquels les hôtes s'asseyaient en croisant les jambes pour rêvasser dans un état second et sur lequel ils s'étendaient à l'aurore. Il y avait les braseros de cuivre qui répandaient encore aujourd'hui une odeur d'essence de rose, les coussins, les tapis, les tentures, les monstres dessinés sur les murs, les chibouks de hashish, les houkas, les narguilés, quelques cigarettes de tabac blond et un treillage mystérieux derrière la porte sur lequel étaient peints des arbres et des pans. L'air était soporifique, embaumé d'encens et des divers stupéfiants que j'avais fumés. J'étais complètement drogué et mon œil gauche s'entr'ouvrait pour vérifier si Ali, Sindbad et le vieil Haroun étaient toujours là. Après avoir dormi, je me levai pour aller me baigner dans la pièce attenante au balcon grillagé de la façade. Galata resplendissait au soleil levant, ainsi que la grande avenue qui conduit à Péra, où autrefois s'attroupaient de graves derviches fumant leurs narguilés, et où l'on ne pouvait circuler qu'à grand-peine entre les divans, les meubles, les amandiers, le bourdonnement de paroles, les forêts de chibouk, les derviches, les innombrables commissionnaires, le loueur de chevaux et son cheval de Tofana, les employés de l'arsenal de Cassim, les commerçants de Galata, les artilleurs de Tofana. Derrière la maison, il y avait un pont couvert qui conduisait à une rue enserrée entre deux murs, jusqu'à un lieu empli d'un inextricable fouillis de fleurs. C'était le jardin du harem, où je perdis quelques heures. J'aurais pu m'y reposer plusieurs jours, mais les voix capricieuses me tenaient éveillé. J'entendis quelque part un grand éclat de rire et ces mots « Mais cette cité n'est pas tout à fait morte ». Je sortis alors d'une paix profonde et je me dis « Si cette ville n'est pas tout à fait morte, ce sera bientôt fait et ce sera rapide ». Ce matin-là, j'étais à l'arsenal. Il y a longtemps que je n'ai pas été aussi heureux. C'est peut-être le blanc qui guide ma vie, mais c'est assurément le noir qui gouverne mon âme. Le vieil Istanbul, Galata, Tofana, Cassim et Fanar, Eyoub au-delà des murs, s'enflammèrent magnifiquement. Toute cette ville, sauf un quartier de Galata, brûla comme de l'amadou. En 5 heures, entre 8 heures du soir et 1 heure du matin, tout fut terminé. J'entendis la forêt de cyprès du cimetière des Osmanlis hors des murs, ceux qui entourent le cimetière de Cassim et la mosquée d'Eyoub grésiller instantanément comme autant de chevelures enflammées par une étincelle. Je vis la tour génoise de Galata s'incliner sur sa base et exploser dans un bruit de tonnerre. Je vis les coupoles bleues de 14 grandes mosquées, par 2, par 3, par 4, s'affaisser et chavirer, ou s'élever dans le ciel et retomber en poussière, tandis que les grands minarets penchaient la tête et s'effondraient. Je vis les flammes courir à travers l'étendue vide de l'Etmeidan, 350 mètres, pour aller atteindre les 6 minarets de la mosquée d'Akhmet, enveloppant l'obélisque de granit qui est en son centre. L'incendie franchit l'étendue de Serail Meidani et atteignit les édifices du Serail et de la sublime porte. Puis il gagna les vastes espaces compris entre les maisons et la grande muraille, enveloppa les 70 ou 80 bazars à arcades. L'esprit du feu grandit en moi. Bientôt la corne d'or fut la proie des flammes. À l'ouest du port des galères s'entassaient des bateaux de guerre chargés d'explosifs, des corvettes, des frégates, des brigs. À l'est, c'était un monde de felouks, de gondoles, de caïques, de chalands. À ma gauche, Scutari crépitait. J'avais envoyé à vitesse réduite, sur la mer de Marmara, 40 bateaux chargés de fusées, réglés pour prendre feu à 11 heures du soir, afin de porter l'incendie partout. Et avant minuit, j'étais environné d'un gouffre de flammes. La mer et le ciel étaient incandescents, la terre flamboyée. Non loin, sur ma gauche, je vis les baraques des canonniers et l'arsenal d'artillerie s'envoler en l'air, non sans hésitation d'ailleurs. 3 minutes plus tard, au bord de la mer, la baraque des bombardiers et l'école militaire sautaient ensemble d'une admirable façon. Puis, à droite, dans la vallée de Cassim, ce fut l'arsenal. Ces 5 explosions remplirent le ciel de soleils environnés de fumée, éclairant comme au grand jour des kilomètres de mer et de terre. Je vis aussi 2 rangées de flammes d'un rouge ardent s'étendre dans la corne d'or. C'étaient les bateaux et les chalands qui se pressaient d'alimenter l'incendie. Tout cet immense paysage brûla vite, de plus en plus vite. Ce fut une fête, un délire, un apogée. Quand le rugissement du brasier sinistre encercla l'infini, et quand son cœur incandescent devint gravitation, être, sensation, je me sentis l'épouse complaisante du feu et mon front s'inclina sur ma poitrine. J'eus l'impression de pousser mon dernier soupir et je glissai à terre, ivre-mort. Ô providence farouche, folie inqualifiable du ciel, pourquoi dois-je écrire ce que je suis en train d'écrire? Je n'en veux pas parler. Quel coup de semonce, quelle fièvre dans mon imagination, comme si l'on vous tirait par les cheveux pour vous jeter dans les cataractes de Saturne. Ma main ne peut tenir la plume. Au nom de Dieu, durant 4 nuits après l'incendie, je dormis dans une maison française, autant que j'ai pu en juger d'après la bibliothèque et d'autres meubles. C'était probablement la maison de l'ambassadeur. Le jardin était vaste. On avait une admirable vue sur la mer, du côté oriental de la descente de Péra. Cette maison était, pour mon salut, une des rares que j'avais épargnées. Elle était située à côté du minaret d'où j'observais le spectacle, et ce minaret dominait le quartier musulman sur les hauteurs de Taksim, entre Péra et Fondoukli. En bas, au quai de Fondoukli et à celui de Tofana, pour plus de sécurité, j'avais mis à l'abri sous des hangars 2 caïques. L'un était l'embarcation dorée d'un sultan avec un éperon d'or à l'avant, l'autre était le canot de ses afias qui patrouillaient dans la Corne d'Or. Grâce à l'un ou l'autre, je pouvais rejoindre le Speranza, mouillé tranquillement à quelques encablures de la côte du Bosphore.